Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission 2018. En ce qui me concerne, vous aurez le plaisir de retrouver Romain de Bec de Lièvre lundi prochain à 21h sur France Culture. Par les temps qui courent, écoute les artistes tous les soirs pendant une heure. Ce soir, nous avons la joie de recevoir Ryoko Sakiguchi.
Un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, tu vas te voir.
Marie Rissu.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Alors que nous nous apprêtons donc doucement à laisser derrière nous l'année 2018, alors que nous vivons ce soir le solstice d'hiver, alors que nous garnirons bientôt pour les chanceuses et chanceux nos tables de mets savoureux et ou roboratifs, on aura tout plaisir à lire votre reste des vagues, Ryoko Sekiguchi. C'est la traduction littérale du terme Nagori qui évoque en japonais la nostalgie de la séparation et surtout la saison qui vient de nous quitter. Ce goût du Nagori vous fait circuler de la nourriture au haïku, de l'amour à une forme de nostalgie, circulaire aussi entre la culture nippone et ses bistrots de la banlieue tokyoïte, jusqu'à un dîner italien dont vous gardez les mots et les mets en mémoire. Un dîner touchant à l'infini donné à la Villa Medici pour clôturer une année passée en résidence là-bas. Bonsoir Ryoko Sakiguchi.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Nagori est paru aux éditions POL. Soyez la bienvenue. Alors, on vous avoue qu'on ne l'a pas fait exprès, mais quand même vous recevoir pour ce texte-là le soir du solstice d'hiver est une sorte de concordance des astres et des calendriers assez parfaite.
C'est vrai.
Est-ce que vous êtes sensible à ce genre de hasard?
Ah oui, bien sûr. Et puis en plus, c'est le jour, peut-être un moment, je préfère le solstice d'hiver que le solstice d'été.
Pourquoi?
Parce que vous savez, tout le monde aime le solstice d'été. Tout le monde est content. En fait, il y a beaucoup de choses, par exemple, qui se font autour du solstice d'été.
Sûr, ouais.
Alors
longtemps.
Que on passe très vite le solstice d'hiver parce que qu'il y a le Noël qui attend. Enfin, en Europe, alors que le solstice d'hiver garde bien les symboles qui, en fait, c'était ça l'origine, la nuit la plus longue après, c'est la renaissance, c'est le renouveau, et le Noël un peu pris, enfin emprunté, ces symboles. Alors que il y a, si vous voulez, en Mali, enfin des coutumes que j'adore en Iran, donc le solstice d'hiver est très important parce que il garde des coutumes chez les zoroastriens, donc voilà, bien sûr, c'est à partir de là la lumière. Et donc, ils se rassemblent en famille, entre amis, et ils partagent les histoires, les légendes que les gens les plus âgés de la famille racontent. On fait la divination à partir de divins, de Hafez, les poètes. Alors, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas faire invoquer plus de trois fois le poète parce que il sera en colère.
Mais Hafez tout seul ou tous les poètes?
Et surtout notamment Hafez, donc le poète préféré. Donc là, cette soirée, moi je trouve, et en fait ils essaient de rester éveillés pour se soutenir de cette nuit la plus longue, le plus noir, le monde est le plus noir.
Et ce qui fait encore, c'est très très beau cette coutume-là, qu'à cela ne tienne, on n'a qu'à faire ça toute la nuit ce soir, finalement.
Ah bah oui, mais moi je suis d'accord.
Mais ce qui est très très beau, c'est que ça fait se rassembler très fort l'obscurité, la nuit et les récits et la parole qui grimpe, quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, c'est que ça couple en fait, c'est dans la nuit qu'on raconte les plus belles histoires, les plus longues, et c'est comme ça que ça se transmet.
C'est ça aussi les forces en fait que pour combattre contre ces mots, contre ces ténèbres.
Et en plus, vous voyez les choses de cette manière-là, c'est-à-dire à la fois c'est la nuit la plus longue, mais en fait c'est surtout le début du rallongement des jours.
Bien sûr, commence. Parce que je pense que comme une... Il n'y a jamais une saison toute seule. Il y a toujours, on est toujours entre 12 saisons. Et le jour, justement, la nuit est la plus longue, qui est la plus longue. Et là, finalement, c'est la fin de la nuit la plus longue. Et après, en fait, c'est la lumière qui commence à nous accueillir.
Et c'est vraiment là que se situe votre livre et une sorte de méditation que vous proposez à la fois sur le langage, sur les saisons, sur le temps qui passe, sur la nourriture. Ça se situe toujours à un moment qui est un moment de frontière, de où les deux bords se touchent, ou bien c'est la fin de quelque chose, ou bien c'est le début. Mais là, c'est le début de cet entretien. Tiens, puisqu'il va être beaucoup question de goût et de nourriture, on va commencer avec la parole d'un chef.
Je suis très triste un petit peu de ce qui se passe en ce moment sur, je dirais, sur les marchés parisiens. Il n'y a plus cette notion de rendez-vous qui est tellement importante. La nature a tout écrit, vous savez, on peut pas mettre des tomates dans sa cuisine toute l'année. On peut pas penser aubergine dans sa cuisine toute l'année. C'est pas ce que la nature a défini. Quand je parle de rendez-vous, effectivement, c'est une excitation. Le fait de ne pas avoir touché une courgette depuis un an, vous avez le plaisir de retrouver le produit. Et donc, dans ce cas uniquement, vous n'abîmez pas votre créativité. On peut pas mettre des tomates dans sa cuisine toute l'année. Ce n'est pas possible. D'abord parce que le produit n'a pas de saveur, n'a pas de profondeur, n'a pas de parfum. On est sur un produit totalement hors sol, hors saison. Je parle même pas de problème de santé. Quand je dis que la nature a tout écrit, il y a également, si vous voulez, cette rupture de la main du geste. On n'a pas la même main en hiver qu'en été, dans la réalisation d'un plat, je dirais dans la douceur d'approcher le produit. Le geste n'est pas le même. Et ça, c'est important de ne pas avoir le même geste toute l'année. Ce sont nos cinq sens qui se sont sollicités, mais d'une manière différente à chaque saison.
Le geste, l'essence et le rapport au produit, on aura peut-être reconnu le chef Alain Passard dans une archive de 2014, peut-être pour rentrer avec vous dans votre livre Nagori, qui à la fois est une sorte de relation là aussi avec le produit saisonnier, mais aussi une phrase entendue, comme souvent, entendue où et qui a donné naissance à l'écriture de ce texte. Vous l'avez entendue où, cette phrase ?
Dans un bistrot, dans une banlieue de Tokyo, c'est le bistrot où je vais chaque fois que je rentre au Japon et vous savez créer une sorte de comme ça de rituel, c'est vraiment agréable. Donc je suis face au chef au comptoir et je commande les mets.
Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, ce chef ?
Alors, un jour, donc il m'a sorti un plat avec un ingrédient qui me semblait ne pas être de saison. Donc, je lui demande, alors, est-ce qu'il y a encore ce légume ? Et le chef me répond, mademoiselle, vous êtes encore jeune, mais moi, je suis d'un certain âge, je ne sais pas si l'année prochaine, je pourrais encore rencontrer, justement... Comme Alain Passard a dit rendez-vous, mais rencontrer, revoir ce légume. Alors, parfois, ne pas être de saison, c'est aussi précieux.
Et ça vous a laissé rêveuse,
songeuse en tout cas. Intriguée, c'est vrai que je n'ai jamais posé la question de cette façon. Et c'est vrai, après, il y a un épisode, après la parution de livre, je voulais justement aller porter le livre dans ce bistrot, et le bistrot était fermé. Et je ne sais pas où le chef, enfin qui était justement d'un certain âge, a pris sa retraite très probablement. Et donc, voilà, ça c'est un agolique. En fait, je garde ce goût de ce légume hors saison, mais précieux, je ne goûterai plus.
Peut-être d'ailleurs comme un oracle, hein, le fait qu'il vous ait fait goûter ce légume en dehors des saisons en vous disant peut-être que je ne serai pas là l'année prochaine. Peut-être le savait-il profondément, Ryoko Sekiguchi. Mais finalement, ça va contre ce que disait à l'instant Alain Passard. C'est-à-dire, il y a des rendez-vous. tout est écrit dans la nature, il faut les respecter. Votre anecdote, elle vous met sur la piste de ce rendez-vous, bien sûr, mais elle dit aussi que parfois, il faut forcer un peu le destin de ce rendez-vous-là.
Alors, c'est-à-dire que moi, je suis d'accord pour dire qu'en fait, c'est toujours plus agréable, en tout cas passionnant de manger les légumes de saison après. Enfin, il est question de savoir qu'est-ce qui signifie quand on dit de saison. Mais après, qu'est-ce qu'on sait de la nature, en fait, nous, les citadins. Récemment, il y avait une productrice de légumes, un jovine, qui m'a envoyé les tomates, les dernières tomates de son potager.
Au mois de décembre.
Au mois de décembre, c'est vraiment les dernières tomates qu'elle vient de cuire avant-hier et que j'ai goûté hier. Elles étaient délicieuses et c'est étrange parce que j'ose dire que ça avait un goût d'une femme d'un certain âge, vous savez, mais en fait, qui garde les jeux d'une enfance, d'une innocence, qui venait de découvrir le monde. Vous voyez, parfois, il y a des femmes comme ça qui, en parlant avec elles, qui deviennent
dans
de plus en
yeux.
Plus belles. J'en la trouve de plus en plus charmante et, en fait, séduisante. Et ces tomates avaient ce goût-là. Et donc, à la fois, bon, bien sûr, on sait qu'en février, les tomates n'existeraient pas, mais finalement, on est aussi pris par ces idées reçues de dire que les tomates sont finies à partir de la fin de vacances d'été, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Surtout que les choses changent pour le bien ou pour le mal en ce moment, la question des saisons et malheureusement le réchauffement climatique va peut-être faire bouger toutes ces frontières-là. Mais ça me fait penser à une anecdote que vous racontez dans votre livre Ryoko Sekiguchi où vous vous astreignez pendant un an à ne vous nourrir que aux légumes de saison d'un certain potager. Racontez-nous l'expérience que ça a été.
Oui. Alors, je pense que c'est une chose que si je raconte comme ça, tout le monde va rêver parce que c'était un producteur qui livrait dans des restaurants de palaces étoilés et qui en fait pour ne pas gâcher les surplus de leur production proposait à certains de vendre le cajou en fait chaque
comme une AMAP quoi, comme une AMAP
voilà,
classique en fait.
Comme une AMAP et donc on ne pouvait pas choisir ce qu'il y a dedans. Donc le prix était toujours pareil. Et c'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois que ce que
les plus
qui sont servis,
par
exemple, chez Alain Ducasse. Mais après... Oh là là, après, je me souviens encore, après le mois de novembre, décembre... navets, carottes, choux, oignons, navets, carottes, choux...
Pommes de terre.
Et en plus, j'ai pris des kilos en hiver en ne mangeant que ces légumes, parce que bon, bien sûr, il contient plus de sucre, les carottes, et donc, en fait, c'était... J'ai eu du mal à tenir la promesse que je me suis faite pour moi-même de garder ce rituel pendant un an. Et printemps arrivé, c'était un soulagement total.
Peut-être parce qu'il y a dans ce rendez-vous avec la nourriture quelque chose qui excède la nourriture, et c'est bien ce que montre votre texte. Ça dit notre rapport au monde au-delà de ce que nous mangeons, notre rapport au temps qui passe, notre rapport aux saisons. Alors on s'attarde un peu sur ce terme-là qui donne le titre à votre texte. Nagori, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors Nagori, c'est vrai que c'est la première fois d'ailleurs que j'ai donné le titre du japonais à mon livre. Oui. C'est un thème tellement en général en tant que traductrice ça ne se fait pas de garder le mot japonais en disant que c'est intraduisible, il y a des nuances, vous voyez, mais c'est vrai que pour une fois je me suis fait une exception parce que c'est une nuance tellement, enfin c'est un mot tellement joli que je voulais qu'il fait, qui fasse son entrée dans la langue française. Et alors, Naguri, donc ça veut dire le reste des vagues, étymologiquement parlant. Donc, lorsque les vagues se sont retirées sur la plage, il y a des petits objets, des cailloux, des coquillages, des papiers.
Ah, c'est le dépôt de la marée.
Oui.
Ah, moi j'entendais ça comme le reste de l'écume. En fait, c'est ce que vient déposer aussi la marée sur le sable, en fait.
Voilà. Mais ça peut être, non, ça peut être les deux. En fait, ça peut être les deux. Et après, ça, maintenant, on écrit avec le caractère qui est le nom qui reste. Et donc, je pense que les Japonais, si vous demandez à un Japonais ce que ça veut dire Nagori, je pense que les gens, la plupart des gens vont vous répondre que c'est les noms qui restent.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le nom qui reste en mémoire? Le nom des gens? Ou le mot, ou quelque chose du langage comme ça qui nous reste en tête?
Je pense à soit les objets, soit les personnes. Par exemple, lorsque une fois que, par exemple, une personne est partie définitivement, et bien les objets sont disparus, il y a quand même le nom qui reste et qu'on peut évoquer, n'est-ce pas? Qu'on peut prononcer le nom. Je pense que c'est maintenant comme ça que les Japonais comprennent le mot. Et bon, bien sûr, par extension...
ça s'applique au champ de la nourriture.
Voilà. Et pour la nourriture, ça veut dire les produits qui sont à la fin de saison. Justement, ce que en français qu'on appellerait le dernier quelque chose, le dernier figue, dernier tomate. Voilà.
Et alors, qu'est-ce qu'ils ont de singulier ces fruits ou ces légumes qui sont nagori? D'ailleurs, dans la langue, ça se fait quoi? On associe le mot nagori avec le mot.
Voilà. On va dire les derniers tomates, tomates de nagori. Et même vous trouverez dans un menu, dans un restaurant, par exemple, je sais pas les salades de tomates de nagori. Et là, ça donne une touche de plus, on est plus, enfin une émotion de plus, on va dire, parce que c'est comme si on dit que ces tomates-là, vous ne vous voyez plus
pendant
jusqu'à
longtemps.
L'année prochaine, jusqu'à deux saisons prochaines. Mais après, justement, récemment, J'ai parlé de cette histoire et puis quelqu'un m'a dit « Mais non, mais c'est plus difficile de parler de dernière figue, dernière tomate, parce que vous allez manger cette salade de tomate, dernière tomate, en pensant que c'est la dernière. Mais peut-être au marché, vous trouverez encore les tomates 12 jours plus tard. » Mais c'est ça qui est aussi, je pense, que propre à la fin, à toutes les fins, parce que comme notre vie, la naissance, c'est une seule fois, une fois pour toutes. On sait quand justement on est né, c'est une date, c'est comme le début de toutes les choses, en fait c'est net. La fin est plus floue.
Et c'est pour ça que ce terme-là renvoie, tout à l'heure c'était marrant la manière dont vous disiez le solstice, on peut le voir de plein de manières différentes, ou bien en considérant de cette longue nuit noire, profonde, la plus longue de l'année, ou bien en considérant que c'est le début du rallongement des jours. Bah là, ce Nagori, c'est pareil, ça évoque aussi à la fois le moment de la séparation, de la fin, mais aussi le regard vers ce qui vient de s'écouler, c'est-à-dire à la fois c'est les dernières tomates, mais elles nous font penser à toutes les tomates qu'on a mangées cet été ou ce printemps pour les premières tomates. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre, d'une certaine manière.
Bien sûr, et comme vous savez, c'est un peu comme la séparation malgré vous d'un être cher. Il y a des images qui reviennent à l'esprit de tous ces moments que vous avez passés avec cette personne. Je pense qu'il y a ça aussi. En fait, on doit avoir ça avec les légumes et avec les fruits aussi.
Comme une réminiscence, en fait.
Oui, qu'on fait avec les personnes, avec une ville, avec après un voyage.
Ce n'est pas le seul mot que vous laissez en japonais dans votre texte et on va entendre un nouvel extrait de ce texte-là.
la coutume de l'eau myokuri surprend souvent les Occidentaux en visite au Japon. Elle consiste à raccompagner la personne qui s'en va, comme cela se pratique dans beaucoup d'autres cultures, et comme elle s'est pratiquée longtemps dans les gares et les ports. Au Japon, cependant, elle ne concerne pas seulement les grands départs. En ce moment que je suis au Japon, ma mère reste sur le pas de la porte, tous les matins quand je sors de la maison, et agite la main jusqu'à ce que j'ai tourné le coin de la rue. Dans les restaurants traditionnels de Kyoto, le chef et la patronne sortent chaque fois qu'un client quitte l'établissement et continuent de les saluer jusqu'à ce qu'il ait disparu de leur champ de vision. Omyokuri, c'est raccompagner, okuru, du regard, mi. Chaque fois que je me rendais chez mon grand-père, au moment de se quitter, il faisait omyokuri jusqu'à ce que j'aie monté la pente et que l'on ne se voit plus. C'est le regard qui prolonge le lien entre deux personnes, même après le départ. Est-ce parce que nous, Japonais, n'avons pas d'autres gestes pour ponctuer la séparation, comme la bise ? Toujours est-il que la séparation, comme une queue de comète, laisse une trace. Ce n'est pas tourner la page brusquement. Mon plus long omyokuri aura été pour une personne qui habitait à côté du cimetière de Montparnasse. Nous nous étions quittés juste après une promenade, dans le quartier de Raspail. La personne a emprunté un chemin entre les parcelles du cimetière, sa silhouette devenant de plus en plus petite, avant de disparaître lentement. Cela m'a fait penser au soleil couchant, ou peut-être était-ce le soleil couchant que je contemplais un jour à Rome, depuis la terrasse de la Villa Médicis, qui m'a rappelé toutes ces expériences d'omyokuri que j'avais connues jusqu'alors. Le soleil se couche jusqu'à devenir presque indiscernable, irrémédiablement, tout comme la saison. Une fois le soleil disparu derrière la ligne d'horizon, sa lumière, quoique de plus en plus faible, comme une image persistante sur la rétine, demeure et nous éclaire encore quelques minutes. Ce ne sont pas seulement les personnes. Parfois, un lieu peut vous accompagner. Lorsque l'on prend le train, le bateau ou la voiture, et que l'on regarde s'éloigner le paysage du lieu qu'on quitte, n'avez-vous pas senti parfois ces montagnes, ce port, vous accompagner encore un moment ? Aucun départ. Nulle séparation ne se fait en un instant. Même si le moment du départ dure à peine une seconde, il reste encore les vagues, la lumière qu'a laissé le temps passer ensemble.
Ryoko Sekiguchi, on entend ici dans la voix de Romain de Bec de Lièvre un passage de votre texte Nagori, et je disais que ce n'est pas le seul mot Nagori que vous laissez en japonais dans votre texte, puisque on entend ici ce que vous nous livrez autour de O Miyokuri.
Oui.
Et je trouve assez beau l'idée que quelque chose de toute façon prolonge la séparation, qu'il est faux de croire que ça n'a qu'un instant. Et cette pratique japonaise, en effet, pour qui s'est déjà rendu au Japon, est assez surprenante pour nous qui avons plutôt l'habitude de couper les choses de manière peut-être plus brute. Alors je vous pose la question à vous. Si nous pouvons être surpris en nous rendant au Japon de vivre ces choses-là, avez-vous été surpris de parfois une forme de brutalité avec laquelle, par exemple, les Français se quittent ?
Non. Parce que, mais moi, je pense que les Français font des omyokuri d'une, enfin, ce n'est pas au mieux que lui, mais qui prolonge le départ d'une autre manière.
Avec quoi, le coucou par la fenêtre, par exemple?
Non, mais c'est surtout que, par exemple, à la fin d'un dîner, d'une soirée, on dit que bon, on va pas tarder, et après, à l'entrée, ça traîne un quart d'heure, parfois 20 minutes.
Vrai, c'est
alors,
vrai,
finalement,
c'est
mais oui, mais alors, la prochaine fois qu'on se voit, rappelle-moi, et tout ça. Et donc,
et on s'envoie un texto après pour dire que la soirée était belle.
Oui, voilà. Donc, je pense que c'est une manière de prolonger la soirée. Et aussi, alors, bien sûr, qu'après la parution de chaque livre, je pense que chaque écrivain fait des découvertes par rapport à son propre livre. Mais surtout ce livre, quand même, moi, je n'ai pas écrit pour dire que vous allez apprendre sur les notions japonaises et les coutumes qui n'existent qu'au Japon, parce que justement, alors au Miyokuri, j'ai eu les messages de plusieurs personnes, lecteurs français, qui m'ont dit qu'ils pratiquaient au Miyokuri sans qu'ils sachent sans avoir le nom comme ça qui a...
En suivant la personne du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Oui, voilà. C'est vrai, vous avez raison.
Donc, chaque fois qu'on quitte les parents, la famille, les amis, l'ami, donc justement, on coucou par la fenêtre, c'est une sorte d'omiokuri, n'est-ce pas? Et aussi pareil, en fait, finalement, nagori, ce n'est pas la notion proprement japonaise, mais je pense que c'est juste parce que qu'on n'avait pas le mot pour le dire. Mais que je pense que vous partagez tout à fait ce sentiment. C'est aussi pour ça que
c'est merveilleux d'avoir deux langues, en fait. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que maintenant on saura qu'en fait on fait omiyokuri sans le savoir.
Ouais, et c'est, voilà, que et vous c'est avez le nagori pour certaines choses.
Exactement. Et qu'on pourra le dire. Est-ce que vous saviez, puisque vous dites à l'instant qu'on fait des découvertes sur ses propres livres en tant qu'auteur, est-ce que vous saviez, Ryoko Sekiguchi, que des souvenirs de votre mère vous saluant ou d'autres personnes chères à votre cœur, vous suivant du regard comme ça, ou même le souvenir de restaurateur ou de patronne d'endroits, de bistrot. Est-ce que vous saviez que c'était ces images qui allaient revenir? Est-ce que vous vouliez travailler ça, ou est-ce que vous avez été surprise par votre propre texte?
Je pense à la fois les Japonais sont vraiment très 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 nostalgique, c'est le peuple de nostalgie, mais aussi je pense que je savais pertinemment que je suis un peu plus nostalgique de chez nostalgique, donc je savais que en fait ces rituels étaient toujours importants pour moi, mais de le relier au nagori, c'est en écrivant que ça m'est venu à l'esprit, et je pense aussi encore que en fait nagori, à la fois, donc c'est un livre sur les saisons, ou bien sur les nourritures à la fin de saison, mais en même temps finalement ça a un lien peut-être avec ce que je faisais avant sur l'état d'entre deux mondes, les fantômes, ce n'est pas des fantômes, mais c'est vrai que c'est
la présence des esprits, oui, des morts dans le présent des vivants.
Bah oui, parce qu'on ne sait pas trop, par exemple quand le fantôme fait son apparition, on ne sait pas trop si c'est le passé qui arrive au présent, ou bien c'est le présent qui est tiré par le passé. Et c'est vrai que c'est pareil, en fait, c'est pareil. Enfin, le nagori, c'est autrement. C'est une autre façon de d'être entre deux mondes. Après le coucher de soleil, il y a un peu de lumière. On ne voit plus de soleil, mais ça ne veut pas dire que le soleil a disparu. On le verra, j'espère, après le lendemain. Donc c'est vrai que c'est ce moment très incertain entre absent et présent. Le nagori, dans le texte, j'ai expliqué que c'était la trace de quelque chose qui a disparu. Mais maintenant, j'ai envie de rectifier que ce n'est pas ça. C'est une sorte de, c'est une façon de présence qui peut-être est vraiment tiré vers l'absence mais qui finalement est présent.
D'une manière. Oui, parce que vous écrivez vous-même que dans, peut-être dans le, la compagnie des livres que vous avez écrits précédemment, qui pouvaient traiter cette, ce rapport entre deux mondes, rapport plus ou moins poreux entre le monde de des morts et le monde des vivants, ce livre-là se situait plutôt du côté des vivants, du côté des présents.
Oui, oui, oui. Je pense que c'est, en fait, je parle toujours de la même chose, c'est-à-dire l'état d'entre deux mondes, mais précédemment, je le mettais souvent du côté de la mort, ou bien de départ, de disparition. Mais cette fois-ci, je le tire plutôt vers le présent, la présence.
Est-ce que ça a à voir avec cet événement qui a été la catastrophe de Fukushima, ce fait d'être rappelé à la fragilité des hommes, à aussi notre capacité de détruire la nature? Vous l'évoquiez un petit peu, Ryoko Sekiguchi, mais on sent que c'est peut-être un des noyaux qui fait que vous placer ce texte du côté des présents et du côté des vivants, voire du côté du futur.
Alors, il y a, je pense, tout un groupe, disons, d'écrivains japonais qu'on peut qualifier les écrivains post-Fukushima, enfin post-catastrophe, post-11 mars. Et je pense que je fais partie de ces écrivains-là. Même si, bien sûr, je n'écris pas...
Enfin, précisément là-dessus.
Oui, voilà, à part, ce n'est pas un hasard qui était le chronique après la catastrophe, mais c'est à ces thèmes qui étaient quelque peu, bien sûr, présents, comme la nappe phréatique dans ma période de poète, même en ayant basculé, enfin, en étant basculé vers la prose après les catastrophes de Fukushima, continue finalement, et je pense que je n'aurais jamais été l'écrivain que je suis s'il n'y avait pas cette catastrophe. Ça, elle m'obsède, bien sûr, elle m'intrigue. Et je sais que c'est un thème qui n'est pas terminé et que je fais en quelque sorte la variation autour de ces thèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être toujours lu en connexion avec ces thèmes. Mais et c'est vrai que c'était vraiment important pour moi.
Vous dites qu'elle vous intrigue. Quelles questions restent comme ça, très en l'air, autour de Fukushima pour vous?
C'est-à-dire qu'il y a... Chaque fois que je crois avoir terminé
d'y réfléchir.
Voilà, et c'est pas terminé. Par exemple, Nagori, j'ai commencé au début en voulant écrire sur les saisons. Et après, comme l'apparition du fantôme, le thème de Fukushima aussi apparaît dans le livre. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'ai pas encore fini avec ce thème-là. Et aussi, à la Villa Médicis que j'étais il y a 4 ans, j'ai travaillé sur les momies et le pot de confiture. Mais les momies, c'est vrai que ça avait un rapport indirect avec cette catastrophe, parce que s'il y avait encore milliers de corps qu'on n'a pas retrouvés et qui rend le deuil très difficile, les momies sont presque à l'opposé de ce cas-là, c'est-à-dire qu'il y a toujours, pour qu'un corps devienne momie, qu'il faut qu'il y ait toujours quelqu'un, les mains, qui touchent ce corps en voulant, je sais pas, l'éternité de son corps, quelque chose comme ça, et qui fait que le corps reste, même si les mains qui l'ont touché sont parties. Et donc, ce n'est pas morbide, c'est en fait, il y a une sorte d'accomplissement des gens qui étaient vivants et qui ont voulu que le corps reste. Mmh. Et vous voyez, donc ça, même les momies, en fait, c'est un rapport avec la catastrophe. C'est vrai qu'il y a toute une variation est possible. C'est vrai que ce n'est pas seulement Fukushima, ça a eu lieu à Fukushima, mais pour moi, ça a mis comme point de départ ce qui est la catastrophe. C'est plutôt ça.
Dans ce texte, vous faites écho à une archive radiophonique. En tout cas, vous citez le peintre Pierre Soulages en 1984 sur France Culture au micro de Jean-Claude Bringuier. Ben, on l'a retrouvé, on vous l'a fait écouter.
Moi, ce qui m'intéresse dans les sons, bien sûr, c'est le timbre, tout ce qu'est un son. Mais aussi, c'est l'espace imaginaire que le son crée, dans la manière dont il suscite, dans la manière dont il se développe. Et ce qui était très beau dans cette cloche de bronze perdue dans la campagne humide et dans la nuit, c'était la manière qu'elle avait de s'en aller dans l'espace comme ça dont le son avait de nous quitter et de s'en aller comme ça dans l'espace. Ça m'a frappé aussi dans certaines prières bouddhiques où il y a une prière cadencée qui est rythmée d'ailleurs par des coups de cloche. La cloche était frappée par un bois qui lui-même n'était plus dur parce que l'extrémité de ce poteau était devenue un peu... Le bois était mâché par les chocs lui-même. Et on retrouvait là un peu le son que j'ai entendu dans les temples bouddhistes sur des cloches qui ne sont plus suspendues comme nos cloches, mais qui sont renversées sur la table avec l'extrémité vers le haut. Je pense en particulier à une visite que j'ai faite à un temple bouddhiste qui s'appelle Kokedera, et qui est un lieu de mousse, justement. C'est un jardin de mousse. C'est un très bel endroit, très impressionnant aussi, par le silence, c'est un monastère, au fond. Et là, à l'intérieur du temple, j'ai assisté à une cérémonie. On m'a fait assister à une cérémonie. Ça avait été très difficile, d'ailleurs, d'être introduit là. Il avait fallu me demander une autorisation. Puis finalement, on m'avait accordé très facilement l'autorisation, ce qui avait un peu surpris mes amis japonais. Nous sommes arrivés avec eux. Eux-mêmes connaissaient le moine. Et alors nous sommes arrivés là, nous avons été accueillis par le fils d'ailleurs, qui nous attendait à la porte d'entrée de l'enceinte du jardin. Et puis nous sommes entrés, puis on nous a dit voilà, il y a la cérémonie. Alors on s'est déchaussé, on est entré dans un espace, dans une pièce du temple. Et alors là, il y avait trois officiants, une vingtaine de personnes agenouillées, qui se sont agenouillées, à vrai dire, en même temps que nous, sur un coussin. Et nous sommes restés assis sur nos talons, comme ça, pendant environ trois quarts d'heure. Et nous avons assisté à l'office. Les prières étaient rythmées sur plusieurs cloches. Une qui ressemblait à un énorme grelot. Une autre qui était comme un vase, au fond. Posé comme un vase avec l'ouverture vers le haut. Et puis une autre plus petite. Celle qui était la plus grande avait un son beaucoup plus grave. Et elle était frappée par un bâton entouré d'un chiffon, semble-t-il. Un chiffon, oui. Et l'autre était beaucoup plus aiguë. Et il y avait tous ces sons qui rythmaient la prière, et dont en particulier un qui s'est accéléré à un moment et qui allait de plus en plus vite. Lorsque la prière s'est terminée, d'ailleurs au cours de la prière, peu de temps avant qu'elle ne se termine, j'ai entendu mon nom. Oui. Dans des paroles que je ne comprenais pas. La prière s'est terminée et j'ai entendu... Et alors, pour se terminer, les paroles sont devenues de plus en plus lentes. Et elles se sont terminées avec... alors que le rythme était assez accéléré, le rythme brusquement est devenu très très lent. Pas brusquement, progressivement est devenu très très lent et s'est arrêté. Et j'ai associé cette manière-là au son de cette cloche dans la nuit qui nous quittait, qui s'en allait, et qui créait une immensité. Et comme cette fin de prière, elle suggérait une éternité.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richu, avec Lyoko Sekiguchi.
Life is like a roller coaster. It does
Ryoko Sekiguchi, on évoque avec vous votre texte Nagori, publié aux éditions POL. Et on entendait juste avant Coco Rosie, la voix de Pierre Soulages, peintre qui s'exprime en 1984 et qui raconte un moment précis de prière au Japon. C'est une voix que vous entendez, donc ça signe encore une fois votre rapport à ça, aux voix, au timbre des voix, mais aussi le rapprochement que vous faites entre cette expérience qu'il raconte du son d'une cloche, d'une prière, et ce terme Nagori. Quel est ce rapprochement?
Parce que vous savez, c'est vrai que Pierre Soulages a très bien mis le doigt là où c'est le Nagori par excellence. C'est-à-dire que le son, encore par exemple au Miyokuri, si la personne tourne au coin de la rue, elle disparaît de la vue. Mais le son, on ne peut pas savoir à quel moment il disparaît. À partir d'un moment, il devient inaudible. Mais ça ne veut pas dire qu'il
n'existe plus.
N'est-ce pas? Et donc, on peut tendre l'oreille pour savoir s'il y a encore les petites vagues qui flottent dans l'air. Et je pense que c'est ça dont tu parles aussi, non? Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, et donc j'ai dit que la fin est plus floue, mais c'est vrai que dans beaucoup de choses, finalement, non seulement au Japon, mais partout, la fin, par définition, est floue et on ne sait pas, on ne peut pas savoir quand, enfin, non seulement la séparation, et puis aussi, ça peut, vous savez, les Japonais qui sont nostalgiques, ça peut être, en fait, ça peut donner une mauvaise conséquence aussi parce que les gens ont du mal, par exemple, pour le membre de la famille, de décider que c'est la fin. Quand, par exemple, quelqu'un est en état végétatif. Or, donc, euthanasie, n'en parlons pas. Donc, justement, c'est assez étrange parce que, alors que c'est un pays aussi où il y a le taux de suicide, d'un autre côté, est très élevé. Et donc, les gens gardent le corps aussi. En fait, on sait pas trop à quel moment il est parti. Donc, en fait, ça peut être poétique, mais ça peut donner une conséquence aussi. Excuse-moi de parler de façon un peu grave, je pense que cet état de demande existe partout dans notre vie et que parfois, ça peut donner comme ça une conséquence assez grave.
Mais parce que c'était la question que j'allais vous adresser. Pour la mort, à la fois, vous dites que c'est flou et on entend bien ce que ça peut contenir comme questionnement éthique qui traverse évidemment la société japonaise, mais qui traverse évidemment nos sociétés contemporaines en Europe. Mais en même temps, on peut se dire que le cœur s'arrête. Mais alors, on va dire, si le cœur s'arrête, est-ce que vraiment le corps s'arrête? Ce serait votre question. Ou est-ce que le cerveau s'arrête de fonctionner? C'est à ce flou-là que vous pensez?
Je pense. Et aussi, non seulement ça, mais même lorsque quelqu'un est vraiment, vraiment parti, et que après... bien sûr, on met du temps pour comprendre qu'il est parti. Et donc, au Japon, par exemple, on a 49 jours pour dire que la personne est vraiment partie à l'au-delà. Et je trouve ce temps, finalement, le temps de Nagori pour une personne. Donc, pour les derniers figues, les choses sont simples.
Ce qu'on disait pour les fruits et légumes, voilà. On peut le dire aussi pour les êtres qui nous quittent.
Ben oui, parce que c'est après, par exemple, pour les figues, pardon, excusez-moi de passer de quelqu'un là, mais, par exemple, on oublie pendant un moment, et puis on se rend compte qu'il n'y a plus au marché et que, alors que vous pensez retrouver encore cette semaine au marché.
Et alors, quoi vous voulez dire, en fait, un jour, on se rend compte qu'on arrête de penser à la personne qui est morte, ou qu'en tout cas, quelque chose d'elle est parti un peu plus définitivement, et que ça correspondrait à ces 49 jours?
Non, c'est plutôt que, de toute façon, je pense que la pensée va continuer, mais qu'on pause ces 49 jours pour vous dire que pendant ce temps-là, de toute façon, c'est le Nagori. Vous savez qu'on est, en fait, il est entre deux mondes. Vous pouvez en parler, c'est normal et que Bon, après, peut-être le son va s'affaiblir, ça deviendra inaudible, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas.
Est-ce qu'il nous rapproche des résonances, des cloches, des prières que racontait à l'instant Pierre Soulages dans cette archive que vous citez dans votre texte? Vous racontez aussi, et on va se déplacer complètement dans la géographie de votre livre, vous racontez ce dernier dîner italien à la Villa Medici, et vous n'êtes pas la seule à avoir pensé à un moment comme ça de cuisine, même si les pensionnaires cuisiniers sont très rares à la Villa Medici. On va en écouter un, c'est Emmanuel Giraud, 2016.
Alors effectivement, j'étais admis comme pensionnaire au titre des arts culinaires. C'est une discipline assez rare qui n'a vu que deux pensionnaires depuis 350 ans, hein, puisque l'Académie de France à Rome fête les 350 ans cette année. Et je ne suis pas cuisinier. J'ai pas de CAP de cuisine, j'ai pas de restaurant. En revanche, je suis artiste et j'utilise la cuisine dans mes performances, dans mes installations. Donc, à la Villa Médicis, je n'avais pas spécialement de cuisine professionnelle. J'avais un logement avec une cuisine somme toute modeste et j'utilisais quand il voulait bien me laisser la place, la cuisine du directeur de la Villa Médicis. Mon projet romain était une réinterprétation du Festin de Trimalcion. Donc c'est un fragment tiré du Satyricon de Pétrone. Je comptais le réinterpréter dans une version contemporaine, c'est-à-dire une version épurée, plus digeste. Et j'avais d'ailleurs sous-titré ce festin: est-ce que l'orgie romaine est soluble dans le minimalisme culinaire? Alors, j'étais pas du tout dans une logique d'archéologie culinaire. Moi, je ne cherchais pas à reproduire à l'identique les plats de l'époque. Le Satyricon de Pétrone est un texte littéraire, c'est donc une fiction. Il s'agit pas du tout d'être dans la vérité historique, mais on est dans le fantastique, c'est-à-dire que chaque plat qui est servi pendant le festin de Trimalcion est un plat en trompe-l'œil. On ne mange jamais ce qu'on pense avoir dans l'assiette. Le cochon qui est amené, il a été cuit entier sans le vider. Mais en fait, lorsque le cuisinier ouvre le ventre, il est déjà farci avec des produits qui sont cuisinés, avec des boudins, avec des pâtés, avec des grives, avec des oiseaux.
Dîner des pensionnaires, le 19 août 2014. Abricots, agar-agar, ail, alcool, de grenades et de kaki de la Villa Médicis, awamori, amandes, anchois, aneth, asperges, aubergines, avocats, baies roses, basilic, boutargue, bœuf, capre, calamar, campari, canard, cannelle, cardamome, carottes, cédra, céleri, cerise, citron, fruits, feuilles de la Villa Médicis, crus et confits faits maison, concombre, crème fraîche, curcuma, curry, dattes, dorades, doubanjiang, faits maison, eau, farine, fécule de pommes de terre, fenouil, fleurs de courgettes, figues, foie de volaille, fraises, fromage, mozzarella, pecorino, ricotta, Philadelphia, gélatine, gelée de passito, gingembre, grenade, groseille, huile, de courge, d'olive, de sésame et de tournesol, jambon kankoji, fait maison, katsuobushi, kombu, lait de coco, mangue, marjolaine, melon, menthe, miel d'acacia, mirin, miso, mostarda di pere, moutarde, mûre, muscade, myoga, nyokman, noix, œufs, oignons, olives, oranges, douces et amères, orzata, pain, pancetta, pastèque, paprika, pêche, persil, pignon de pin, piment japonais, pistache, poire, poireau, poivre, blanc et vert, poivron rouge, porc, poulet, roquette, safran, saké et marc de saké, sauce de soja, sauge, sel, semoule, sésame blanc et noir, sucre, tomate, vinaigre, balsamique, de cidre et de kaki, vongolais, yaourt, yuzu.
Allez savoir comment fonctionne notre émotion, Ryoko Sekiguchi, mais moi j'ai trouvé ça super émouvant d'entendre Romain de Bec de Lièvre lire les ingrédients de ce dernier repas à la Villa Medici que vous proposez au moment où vous clôturez votre année de résidence là-bas. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'entendre l'énumération, d'abord même pas des plats, mais de ce que vous avez utilisé pour cuisiner?
Vous savez que le jour, enfin le soir même, une des convives, qui était donc un de Consigny, a lu les ingrédients vers la fin du dîner, qui était 3h du matin d'ailleurs. Et donc c'est cette image-là qui m'est revenue à l'esprit. Et c'est aussi... vous avez dit que c'est émouvant et c'est étrange parce que vous n'avez pas
non,
vécu.
Mais c'est pour ça que je dis, je sais pas comment fonctionne mon émotion, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment que ça a commencé l'énumération, il y a quelque chose, oui, que j'ai trouvé très émouvant, alors que j'avoue que je m'y attendais pas vraiment.
Et justement, parmi les choses que je découvre, donc après ça va écrit ce livre, est-ce que Nagori de ce qu'on n'a pas vécu existe? Parce que je parle de ça parce que lors d'une rencontre que j'ai eue la semaine dernière, il y avait une jeune étudiante de langue japonaise qui est venue me parler, a dit « Maintenant, je sais pourquoi j'ai appris le japonais, mais que en fait j'avais le Nagori sans que je sache, et que justement j'ai compris en lisant cette partie de dîner de la Villa Médicis, j'étais nostalgique.
C'est fou ça se rapporte à des essais philosophiques de Barbara Cassin sur la nostalgie d'une perte qu'on n'a pas nécessairement
justement
en nous-mêmes. Oui. Donc moi j'ai pas vécu ce dîner, mais pourtant l'énumération. Alors est-ce qu'on en parle justement de ce dîner et de dire qu'est-ce qu'il y avait là aussi de Nagori dans votre geste, à savoir essayer de trouver des réminiscences dans la cuisine même des plats qui pouvaient faire référence au temps qui venait de s'écouler dans cet endroit de la Villa Medici avec toutes les personnes qui avaient séjourné aussi pour y travailler?
Alors bien sûr, donc la Villa Medici, tout le monde rêve, et que j'ai rêvé ça aussi, et que c'était extraordinaire. Je pense que c'était une des plus belles années de ma vie, sinon la plus belle. Aussi très, je pense, difficile pour certains, parce que on ne vit qu'une seule fois et on ne vit qu'un an. C'est-à-dire que chaque saison, c'est la seule et unique fois
qu'on passera à la Villa Medici. Ah ouais, je trouve ça hyper bizarre.
Et donc, du coup, à la fois en temps normal, donc on vit dans deux temporalités parallèlement, donc le temps linéaire de notre temps d'être humain et le temps circulaire, cyclique. Alors que là, même le temps cyclique entre dans le temps linéaire. Et je pense que c'est une année de Nagori chaque jour, que c'était assez étrange. Je pense que c'est là où est né le livre. Parce que, mais sans, non seulement moi, mais tous les autres pensionnaires disaient, ah, il ne reste que 290 jours de mon séjour. Vous voyez, donc chaque fois on comptait le jour, chaque fois c'était la fin de quelque chose plutôt que le début de quelque chose. Vous voyez, chaque fois c'était la fin, tous les jours c'était la fin de quelque chose. Et donc, pour clore vraiment cette année-là, j'ai demandé aux autres pensionnaires de ce qui ont marqué comme ingrédients, ce qui était lié avec leurs souvenirs. Et donc, j'ai rassemblé, c'est comme si j'ai rassemblé tous les souvenirs et les éléments, les talismans. C'est comme si j'ai rassemblé les talismans que j'ai brûlés.
Pendant ce menu-là, ce dîner-là, je disais en introduction, c'est presque à vous lire, parce que c'est un récit qu'on a plutôt vers la fin de votre texte, Nagori, que c'est une sorte de dîner qui touche à l'infini. Mais en fait, je me souviens de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, Nagori a aussi à voir avec l'éternité. Les mains qui touchent la momie et qui lui font vœu, finalement, de traverser le temps jusqu'à l'infini du temps. Il y a quelque chose dans cette espèce de grand dîner qui va au-delà de la seule clôture d'une année, c'est à la fois clôturer et en même temps projeter les souvenirs dans l'infini de vos vies à chacune et chacun.
Oui, je monte régulièrement des événements littéraire et culinaire, et bien sûr éphémère, parce que chaque fois c'est seulement les ceux qui ont assisté qui peuvent vivre ça. Mais je pense que c'est à partir du moment où il y a des mots qui est dedans dans des événements, je pense qu'il y a cet élément de l'infini qui est mêlé.
Parce que c'est plus fort le langage que le souvenir du goût.
Non, c'est parce que les noms restent justement comme le Nagori. Et le soir même où vous écoutez maintenant en ce moment, donc c'est à la maison de la poésie, donc je fais une soirée et cette fois-ci j'ai fait un plat de la recette de ma grand-mère. Et donc il y a 160 personnes qui sont présentes, qui vont goûter ce plat. Qui ont été faits par, disons, les mains que j'ai convoquées ce matin. Donc, quand je fais un événement, ce n'est pas en qualité de cuisinier. Je fais, en fait, c'est pas pour faire goûter de bonnes choses. C'est plutôt, justement, pour faire partager une expérience liée aux mots.
Et les choses sont très liées pour vous, et on terminera là-dessus. Préparer un mets. C'est comme préparer une phrase, c'est comme préparer un texte. Pour vous, ça passe de la même manière?
Ah oui, une culture culinaire, et c'est une langue. Un texte, c'est un repas. Une phrase, c'est un plat. Et un mot, c'est des ingrédients.
Merci beaucoup Ryoko Sekiguchi. Nagori est publié aux éditions POL.
Bœuf, araignée de mer et caviar, royal d'araignée de mer, cœur de filet de bœuf de Salers, au caviar au cirque. Petite quenelle au caviar pressé, galette de blé noir au navet blond,
autour de notre grande table studio ce soir, au son, c'était Pierre Monteil, à la réalisation Massimo Bellini. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr et puis vous faire toute une réécoute de 2018. Il y a du très beau monde sur le site internet et en podcast. Abonnez-vous à Par les temps qui courent. Un grand merci à Marianne Chassor, Luc Vauvillier et Jeanne Aléos. Et un grand merci à Romain de Bec-de-Lièvre que vous retrouverez lundi à 21h sur France Culture en bonne compagnie, puisqu'il sera avec Fanny Ardant et il sera au micro pendant 2 semaines. Moi, je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous retrouve en janvier 2019.
Cannelé à la patronelle et fromage de chèvre frais. Agrémenté d'une pâte de piment Nora.
Dans un instant, le journal. Très belle soirée sur France Culture.
L'agneau. Allaiton de l'Aveyron. Sel poêlé à l'origan. Carré frotté d'un cahier de brebis en tandoori. Et timbales de riz à l'oseille pourpre. Escargot, petit gris, sauvage, lié d'un pesto de cerfeuil, feuilles cigarettes de chou Shanghai, panisse. 2 personnes.